Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Jean-Christophe Cambadélis.
Bonjour Jean-Christophe Cambadélis.
Bonjour.
Vous avez passé un peu plus de 3 ans à la tête du Parti Socialiste, d'où vous assistez au crash historique du parti. Et vous publiez aujourd'hui donc Chronique d'une débâcle aux éditions de l'Archipel. Merci d'être ce matin sur RTL, d'autant que ça fait 3 mois que vous êtes silencieux. Un peu plus de 200 pages pour analyser à votre tour comment vous en êtes arrivé là collectivement. Alors, vous êtes un grand connaisseur de la gauche. Pour tout dire, vous vous lâchez dans ce livre. Vous avez retrouvé votre liberté de parole.
Tout à fait. Je pars du premier secrétariat samedi. Je voulais que ce livre soit publié à ce moment-là, pour deux raisons. D'abord, parce que je pense que le bilan de François Hollande vaut mieux que le récit, qui est quand même chaotique. Et ensuite, parce que je crois, c'est un conseil que je donne aux socialistes, ils ne peuvent se refonder qu'à partir du moment où ils auront surmonté ce moment que nous avons connu avec cette débâcle électorale.
Et un moment à surmonter, vous voulez y contribuer par ce livre. On vous a entendu pendant 3 ans porter la bonne parole présidentielle, c'est quand même un sacerdoce, Jean-Christophe Cambadélis. Comment vive-t-on cette position d'apôtre du hollandisme? Comment vous l'avez vécu?
D'abord, il faut être convaincu de ce que l'on fait. On ne parle pas comme cela sans avoir
une certaine... Vous y avez toujours cru?
Non, pas toujours, mais j'y ai cru à des moments donnés. Je l'explique dans ce livre. Je pense que ce quinquennat a manqué de sens. Mais les décisions prises sujet par sujet n'étaient pas fausses. Et donc, c'est cette dichotomie qui a conduit à ce crash.
Vous êtes assez dur pour François Hollande, sans être sévère, vous l'avez dit forcément à l'égard de son bilan. Cruel quand vous décrivez ce président qui ne sait pas dire non, je cite. « On pourra tout lui demander ». Même le plus grotesque, il y répondra un peu plus loin. Son absence de discernement va très vite devenir anormale. Vous ajoutez qu'il ne dit jamais où il va. Il n'aura pas été président dans le fond. Il aura été Premier ministre. Il n'a pas compris l'essence de la Ve République.
Je crois qu'il a parfaitement compris, mais qu'il y a deux problèmes qui sont posés d'emblée. Il y en a trois avec le bilan de Sarkozy, mais il y a deux problèmes qui sont posés d'emblée. D'abord, il devient candidat des socialistes après le crash de Dominique Strauss-Kahn, et il n'a pas le temps de se préparer, d'humer le pays.
Il n'est pas prêt. Un jour, ça vous saisit.
C'est ce que j'ai pensé d'emblée. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de répondre aux problèmes, mais qu'on n'a pas pensé la France. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est qu'il arrive en responsabilité dans un accord stratégique avec Montebourg, qui est sa négation. Donc, au fond, la fronde, s'est installée dans le code génétique de ce quinquennat.
Il a gouverné, il n'a pas incarné. C'est ce que vous dites au fil des pages. Vous racontez qu'un jour de 2012, où vous venez plaider l'Élysée votre cas, parce que vous voulez être déjà
absolument
à la tête du PS, ça sera un peu plus tard. Il a la tête ailleurs, ça vous frappe. Et à la fin de l'entretien, il dit « Il y a beaucoup de gens très intelligents au PS ». Je suis le seul à être devenu président. C'est ce qu'il vous dit en conclusion. Vous écrivez « fermez le banc ». En fait, il estimait avoir réussi sa vie, quoi, avec l'élection. Ce quinquennat, pour lui, il était fini du moment, presque au moment où il est élu.
Alors, il a réussi sa vie d'homme politique, parce que pour beaucoup d'hommes politiques, le Graal, c'est la présidentielle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas capable d'aborder les problèmes tels qu'ils se posaient. Mais pour lui, voilà, il avait réussi, comme pour tout socialiste.
Il était
dans la succession de François Mitterrand. Vous imaginez ce que ça veut dire comme mythologie pour un militant socialiste moyen, et en plus pour François Hollande.
Dans ce livre, vous faites un ou deux mea culpa, vous donnez parfois le beau rôle. Vous voyez tout, vous avertissez souvent. On a l'impression, Jean-Christophe Cambadélis, d'une lucidité extrême qui soit n'a jamais été entendue, soit n'a jamais réussi à se faire écouter. Qu'est-ce qui a manqué?
Je crois que il est difficile sous la Ve République, quand on dirige un parti, de s'imposer au président. Parce qu'il y a la primauté du président de la République. Je dis souvent, et ça m'est reproché par beaucoup de mes camarades, que le Parti Socialiste, quand on est au pouvoir, propose, mais que l'exécutif dispose. Mmh. Et on n'est pas un régime parlementaire. Donc vous ne pouvez pas vous imposer. Vous ne pouvez que suggérer. Vous ne pouvez qu'infléchir.
C'est pas une question de courage non plus.
Non, je crois que je n'en manque pas.
Ouais. L'aveuglement de Hollande à l'égard de Macron, vous l'a confirmé. C'est assez sidérant. Au passage, juste parce que c'est savoureux, en septembre 2014, vous avez un premier tête-à-tête avec le nouveau ministre de l'économie. Quelque chose me frappa chez Emmanuel Macron. Il avait le déhanché de Michael Jackson et le regard de Margaret Thatcher. Comment cet homme aussi enjoué et souriant pouvait avoir un regard aussi dur? Macron, l'homme de l'optimisme, de la séduction, vous réalisez à ce moment-là qu'il est beaucoup plus redoutable qu'on peut le supposer.
Absolument, mais parce que moi je viens de l'extérieur. Lui, il était à l'Élysée auparavant, donc très proche de François Hollande. Moi, je ne le connaissais pas. J'avais entendu quelques déclarations de sa part ou quelques éléments d'analyse sur ce que devait être le socialiste qui m'avait chiffonné, mais je ne le connaissais pas. Et quand je le vois, je vois quelqu'un d'extrêmement pétillant, intelligent, tactile, etc. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui me frappe. Ce regard. Ce regard dur. Et donc, je suis troublé par cette personnalité qui est plus complexe que ce qu'elle donne à voir.
Vous le dites à Hollande, donc, quelques jours plus tard. Il est bizarre, ton gars, je ne suis pas sûr qu'il ait en tête notre maintien au pouvoir. Et Hollande répond, non, je réponds lui. Ça va se répéter plusieurs fois dans le livre, en 2016. Il y a un dîner où le Foll, d'ailleurs, s'énerve de l'aveuglement de François Hollande. On explique souvent cette cécité par un amour filial tardif, dites-vous, ou une forme de naïveté. Mais on se trompe?
Oui, je crois qu'on se trompe. Je pense que François Hollande avait perçu la volonté de son ministre de l'économie. Vous savez, François Hollande, il n'y a pas une musaraigne qui bouge dans l'espace public sans qu'il l'analyse. Et donc, il l'avait perçu. Mais il a cherché à l'instrumentaliser. C'est-à-dire qu'il pensait que ce jeune homme, parce que c'était de ça dont il s'agissait, qui plaisait aux médias, pouvait être un complément dans une élection présidentielle, alors qu'à ce moment-là, Juppé s'avançait.
Pour contrecarrer Juppé, il pouvait l'utiliser.
Donc, la méthode de Hollande, c'est de laisser tout ouvert. Il laissait prospérer son ministre de l'économie et créer à partir de là un rapport de force qui lui permettrait d'affronter, le moment venu, Juppé, en le ringardisant. Mais le problème, c'est que Macron avait autre chose en tête et qu'il savait qu'il était instrumentalisé. Ouais. C'est là la force psychologique
au final,
de Macron.
Il a tout vu, sauf le fait qu'il allait se présenter contre lui.
Absolument.
Ça, c'est quand même la pièce du puzzle qui déjoue complètement et qui fait qu'il se piège.
Oui, ça lui était arrivé déjà une fois avec Ségolène Royal.
Ouais. Emmanuel Macron, j'avance parce qu'il y a beaucoup de choses dans le livre, c'est le macronisme. Enfin, vous dites que le macronisme est un technocratisme vertical hyper centralisateur. Vous avez le goût de la formule. Dans technocratisme, il y a technocrate. Un technocrate, Jean-Christophe Cambadélis, ça n'a pas beaucoup de vision. Or, on a entendu Emmanuel Macron hier parler de l'Europe. Il a une vision, il est par exemple dans la façon de redistribuer aussi l'argent public. Je veux dire, ça n'est pas qu'un technocrate,
mais
Emmanuel
les technocrates
Macron
ont des visions, hein, je veux dire. Ils ne sont pas simplement des spécialistes de tel ou tel sujet. Ils pensent un certain nombre de choses. On peut les contester, mais ils le pensent. Mais je crois que Emmanuel Macron, si on prend ce sujet-là, voilà, très beau discours, très belle synthèse de tous les discours qui se sont déployés sur l'Europe. Avec un élément en plus, qui est le fait qu'il faut réviser les traités. Mais il y a trois problèmes. Un premier problème politique, c'est que faire ce discours au moment où les libéraux négocient avec Mme Merkel donne un prétexte aux libéraux de refuser le budget européen. Deuxième, pas de pilier social. Troisième, c'est un peu la France pense et l'Europe suit. Voilà la pensée technocratique. Parce qu'il y a de la politique derrière.
Qui n'est pas
derrière
une pensée politique, c'est ça que vous dites. Vous êtes un peu orphelin de la politique. Hein. D'ailleurs, finalement, Hollande a été plus gestionnaire que politique. Vous prétendez, vous dites que Macron ne l'est pas du tout. Voilà, il manque la politique, mais les Français, eux, ils veulent des résultats, Jean-Christophe Cambadélis. Ils n'en ont pas eu.
Et ben, c'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Ils veulent des résultats, mais ils veulent du sens. Et le problème des socialistes, c'est qu'ils ont dégénéré de la bonne gouvernance nécessaire à le culte du gouvernement. Et donc, cette dégénérescence a fait qu'on n'a plus de sens. Qu'est-ce que proposent comme société les socialistes? Quel type de société? Quelle perspective? Et donc c'est là qu'il faut reconstruire.
Et c'est la fin de votre livre. Un petit mot, parce que l'avenir du PS dont vous parlez bute sur un personnage qui d'ailleurs ouvre votre livre, c'est le premier parent d'apparition, c'est Jean-Luc Mélenchon. On n'a plus le temps, mais en deux mots, vous dites qu'il ne marche pas sur l'eau, mais sur les eaux de la vieille gauche. Il croit pouvoir créer les conditions d'accession du peuple au pouvoir grâce à la sienne. Bref, vous dites que sa vision du peuple est dangereuse. Il remet en cause la démocratie. En un mot, c'est compliqué, mais pourquoi ?
Parce qu'il a une pensée populiste, populiste de gauche, latino-américaine, qui pense que le peuple ne se réalise qu'en s'incarnant dans un seul homme. Mmh. Et donc, il est la voix du peuple, il est l'orateur du peuple, et le peuple s'identifiant à lui, et lui s'identifiant au peuple, eh bien, à partir de là, il accédera au pouvoir contre les oligarchies, dont malheureusement le Parti Socialiste, dans sa vision, fait partie. Mais donc, à partir de là, il divise l'ensemble de la gauche, il ne l'unit pas.
Ouais, vous dites qu'effectivement, vous ne pouvez rien faire d'une certaine façon tant qu'il est le premier opposant de France.
C'est pour ça que j'appelle les socialistes à la révolte. Ne vous laissez pas marcher dessus. Répondez tout en respectant les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon.
Vous quittez samedi la direction du PS, vous redevenez militant. Il ne suffit pas d'un déménagement pour refonder, reconstruire le PS. Quel rôle vous allez jouer ?
Moi, je vais être un spectateur désengagé.
Vous savez que les socialistes, aujourd'hui, les amonistes sont très inquiets de la mainmise que vous voulez donner, que vous voulez mettre, finalement, semble-t-il, sur la direction du PS. C'est Pauline de Saint-Rémy qui avait des confidentiels dans ce sens tout à l'heure.
Vendredi, il y a un bureau national et nous nous rassemblerons.
Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis, chronique d'une débâcle aux éditions de l'Archipel, 200 pages, humour ravageur et évidemment au cœur du pouvoir, Jean-Christophe Cambadélis pendant 5 ans.
Un spectateur désengagé, vient de nous dire Jean-Christophe Cambadélis, ce sont ses souhaits pour les mois à venir. Merci beaucoup à l'un et à l'autre, l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.